carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
L'Académie des Beaux-Arts et la bibliothèque de l'Institut ont organisé une exposition des livres d'artistes des membres de l'Académie des Beaux-Arts. Une douzaine d'ouvrages sont ainsi présentés du 29 octobre au 31 janvier dans les vitrines de la bibliothèque de l'Institut. C'est l'occasion d'entendre les membres de l'Académie parler de leur travail et de leurs œuvres sous un autre angle et autour d'un bel objet de bibliophilie, une œuvre d'art singulière. Je veux parler du livre d'artiste, dont on sait qu'il est rare et précieux, imprimé sur papier de qualité et tiré en nombre limité. Sont ainsi exposés un livre du graveur Yves Trémois sur un texte de Fellini, un livre de Lucien Clergue sur un poème d'Arabal, un autre du peintre Chuché Chun sur un poème de Jean-Clarence Lambert. Sans tout dévoiler, citons la suite des artistes participant à cette exposition qu'on peut qualifier de confidentielle, Louis-René Berge, Jean Cortot, Guy de Rougemont, René Kivik, Vladimir Filikovitch, Zhao Zuki, Pierre Caron et Yann Arthus Bertrand. Pour mettre à l'honneur cette passion de la bibliophilie, l'exposition présente également le travail du lauréat du prix Jean Lursa 2007, le livre Elle, Elle comme les ailes d'un oiseau, publié en 2007 sur un texte d'Éric Chevillard et illustré par Alain Gertpan. Parmi tous ces beaux livres, de formes différentes pour lesquelles les artistes ont choisi d'illustrer des auteurs classiques ou des auteurs contemporains, sur des supports là encore très variés, il y a celui qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui avec Arnaud Dautrive, peintre et secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. Il s'agit du livre de Charles Baudelaire, « Les paradis artificiels », illustré d'une vingtaine de lithographies originales en couleur. Arnaud Dautrive, bonjour.
Bonjour madame.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure éditoriale ?
Alors, je dois dire que je n'avais jamais tâté, entre guillemets, ce genre d'expression, étant peintre, et c'est une occasion qui m'a été donnée par Philippe Lebeau, qui est d'ailleurs l'éditeur de cet ouvrage, de me lancer dans l'illustration de mon premier livre, qui était donc « Les paradis artificiels ». Alors, je dois dire que j'ai tout de suite été séduit, ne serait-ce que par le fait que ce sont les paradis artificiels ou les fleurs du mal, que j'illustrerai plus tard, par le fait que je trouve, j'allais dire, une correspondance, j'allais dire particulière, entre l'œuvre de Baudelaire et ma démarche d'artiste. En fin de compte, je suis une émanation un petit peu du monde symboliste, et je retrouvais dans l'illustration et la cadence à donner à ce livre tout ce que j'aime et que je ressens au contact de ce symbolisme.
Alors, c'est un ouvrage qui a été publié en 1974,
oui,
qui a été tiré à peu près 300 exemplaires. Vous pourriez nous parler un petit peu de la couverture, de la reliure magnifique, toute de cuir, avant que nous ne tournions les pages de l'ouvrage. Elle a été réalisée par Jean Hébrard,
qui est donc un artiste vraiment à part entière. Et vous avez vu le caractère un peu psychédélique.
Oui.
En fin de compte, c'était à une époque où on parlait beaucoup de psychédélique. Et je dois le dire qu'il en a fait quelque chose de fort mystérieux, de vivant en même temps. Ces couleurs, qui sont en fin de compte mes couleurs, le violet étant, oui, ma couleur préférée, avec les rouges très pourpres et les noirs. Je ne dirais pas que ce sont des couleurs sataniques, je ne suis pas particulièrement satanique, mais ce sont des couleurs que j'aime beaucoup, qui expriment une certaine sensorialité, une certaine sensualité. Mmh. Et dans l'œuvre de Baudelaire, c'est un élément qui doit être présent, en tout cas qui vous est proposé.
Alors c'est une belle couverture, effectivement, c'est un maroquin de cuir en impression avec couleur aubergine, violette, effectivement.
Oui, aubergine.
Et
si
on peut passer la main et elle est en relief, en
absolument,
fait, sous forme de vague. Effectivement, ça représente aussi les années 70, ces années psychédéliques que vous évoquiez tout à l'heure.
Oui, absolument, c'est amusant, c'est un livre qui est marqué,
voilà,
si vous voulez, par son époque. Comme il y a des ouvrages des années folles ou au contraire des années 25 qui sont très particuliers.
Alors, vous nous avez parlé de votre attachement particulier à la poésie de Baudelaire que vous avez illustré à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans la poésie de Baudelaire ?
Alors, je vais vous faire un aveu, c'est mon caractère. Au fond, je suis un rêveur. Certainement, en même temps, je suis très attaché à une certaine sensorialité. Je vais dire même sensualité. Ma peinture, en fin de compte, s'exprime dans ce monde, qui parfois est étrange, ce qui explique également ma relation, j'allais dire presque intime, avec Balthus, avec les peintres de cette expression. J'ai besoin de ça, et si vous voulez, avec Baudelaire, je vous le dis, il y a une correspondance...
Avec l'imaginaire.
Tout à fait, sympathique, dans le sens où l'imaginaire est entretenu à longueur de page, ou à longueur de récit.
Est-ce que c'est vous qui avez choisi d'illustrer les paradis artificiels ou ça vous a été proposé par l'éditeur ?
Alors, ça m'a été proposé.
Oui.
Et je dois dire que, comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, que c'était la première fois que je me lançais dans la réalisation d'un ouvrage. Alors, j'ai beaucoup aimé car un ouvrage se traite non pas comme une simple estampe, mais comme une succession, il y a une coloration du livre, il y a tout un rythme à entretenir, ce que vous n'avez pas forcément dans la peinture que vous réalisez traditionnellement. Il y a une invention, c'est une autre émotion, c'est une autre vision, une autre cadence. Oui. Vous allez dans un sens soit progressif ou dégressif, vous avez des points forts, vous avez des points d'orgue, si j'ose dire, vous avez des points au contraire beaucoup plus suaves, vous avez... En fin de compte, tout est permis. Mais le plaisir, vous allez l'avoir autant dans la cadence des images que dans la contemplation de chaque image. C'est un ensemble extrêmement cohérent.
Alors, est-ce que ce sont les aventures mystérieuses du cerveau aussi qui vous ont intéressé par le texte de Baudelaire ? Baudelaire parlait des fêtes du cerveau. Est-ce que le sujet aussi a
été... Si ce thème m'a intéressé...
Enfin, je suppose, pas intéressé, mais oui. Il vous a été imposé par l'éditeur.
Oui.
Mais...
J'ai écouté dès l'instant où l'on publie effectivement la totalité, bon, c'est une chose qui apparaît, mais l'éditeur m'avait conseillé un certain nombre de planches qu'il voulait voir. L'éditeur a travaillé également sur cet ouvrage en disant, voilà, vous pourriez traiter tel...
Ah, il vous avait soumis un projet.
Il m'avait soumis et ça a été pour moi une sorte de, une suite de jalons que j'ai moi-même après développé selon mes émotions et mes goûts.
Par exemple, quand on ouvre le livre, très rapidement, juste avant la page de titre, il y a une double page d'une lithographie qui est, je trouve, assez représentative de l'ensemble.
Du monde baudelairien.
Et du monde baudelairien, exactement. Je voudrais qu'on en parle un petit peu parce que d'abord, il y a aussi un peu toute la dominante des couleurs qu'on va retrouver après dans les autres lithographies. On trouve aussi ces formes, mais... dans la pénombre.
J'ai toujours été un amoureux de cette sorte de nébulosité dans mon œuvre. D'ailleurs, souvent, on me dit, vous avez toujours une vision baudelairienne. Alors, pour certains, bon, c'est un compliment. Moi, je considère ça comme étant un compliment. C'est très, très bien. Mais effectivement, c'est ce monde de l'étrange, du mystère. C'est un mot qui est souvent employé, le mystérieux d'Autrive, car on se dit, au fond, c'est un côté charnel, et en même temps, ce n'est pas un homme qui dévoile particulièrement ses sentiments. Il y a une sexualité sous-jacente, il y a beaucoup de choses dans les tissus, dans les frondaisons, dans les passages. C'est pour moi les facteurs primordiaux de ma création de l'artiste.
Alors justement, sur cette...
Alors là, vous
première
voyez parfaitement. Oui. Bon, oui. Là, vous avez un visage, vous n'avez aucune...
Un visage dont on voit deux grands yeux ouverts, mais toute une partie du visage glisse dans une pénombre.
Glisse dans une pénombre, avec, on devine que c'est un oiseau de nuit, on ne sait pas,
voilà.
Là, vous avez une forme qui est une femme...
De dos,
on
voit un
peu. Qui est un petit peu comme ça recourbé. Bon, là, vous avez reconnu.
C'est un sexe de femme.
Un sexe de femme, absolument. Voilà.
Et on est dans des...
Alors, le tout
correspondances.
Passe. Alors, je n'ai pas peur de montrer, certaines parties intimes, si vous voulez, de ces dames, mais je n'aime pas ce qui est provoquant. Tout cela disparaît et fait partie d'un monde qui, pour moi, est un monde de mystère, de merveille, de sensualité.
Alors, le livre s'ouvre sur cette belle double page. On commence par là. Hein, c'est tout en mystère. Voilà. Et on a effectivement le titre, Les paradis artificiels, dans cette calligraphie là aussi qui évoque pour moi les années 70.
Oui, absolument.
C'est assez frappant. C'est très, très beau. Je voudrais qu'on dise quelques mots d'abord du texte de Baudelaire aussi, parce que dans ces paradis artificiels, je voudrais qu'on ne se méprenne pas. Baudelaire dit que ceux qui consomment à l'époque du haschich, qu'ils ne trouveront rien de miraculeux dans le haschich, rien que le naturel excessif, que le haschich sera pour les impressions et les pensées familières de l'homme un miroir grossissant, un pur miroir. Évidemment, il s'agit pour Baudelaire d'autre chose, d'une autre quête. Les paradis artificiels, artificiels là, c'est très dénigré quand même, et il s'agit d'une autre quête, de la quête de l'infini. Le but de Baudelaire, c'était de montrer quand même quel était l'effet de l'opium, puisqu'il nous parle du mangeur de l'opium, sur un esprit lettré, subtil.
Alors, je vous console tout de suite, je ne suis pas un opiomane, je ne suis pas un homme qui se drogue. Par exemple, la première gravure, à mon avis, est celle qui exprime peut-être le mieux cette présence, donc toujours du mystère, de choses un peu indiscernables. Là, on ne sait pas si c'est une figure, une sorte de fantôme qui se balade dans un monde un peu fuligineux. Ça reste des formes. J'aime beaucoup cette
première lithographie qui illustre
bien le monde baudelairien.
Elle ouvre en fait le poème du haschich, qui est une des parties de l'ouvrage, et effectivement elle est pleine de mystère, on pourrait dire.
Oui, tout en étant presque abstraite. Mmh. C'est certainement une des plus abstraites de l'ouvrage.
On est à la limite, mais justement là il n'y a pratiquement pas de forme, c'est une des plus abstraites de l'ouvrage, tout à fait. Alors, un petit peu plus loin.
Et ça, c'est le violoniste.
Exactement. C'est le passage où...
C'est à contre-jour, donc, toute cette lumière de la scène et le violoniste qui s'exprime. Alors, moi, ce que j'aime, lorsque je revois ces lithographies, si je peux donner mon avis, je m'aperçois qu'en fin de compte, j'avais beaucoup plus de liberté que je n'en ai eu par la suite, dans mes dessins, où les dessins étaient beaucoup plus précis. Et ça me fait très plaisir de voir que j'allais en fin de compte à l'essentiel, ce qui m'avait marqué, alors que dans les autres, bon, j'allais à l'essentiel, mais avec un travail beaucoup plus appliqué.
Là, on
peut-être
est...
moins vivant que ce que je trouve.
C'est très fort là, parce que là,
je n'irai pas jusqu'à dire cela.
Non, mais là, c'est un moment assez poignant que raconte Baudelaire, puisque l'histoire se violoniste, il est seul, il est en groupe, et on se moque de lui parce que justement, il n'adhère pas au paradis artificiel auquel on voudrait lui faire goûter. Et il y a très peu de corps représentés, et chez Baudelaire, là, dans tout ce texte, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la solitude.
Toujours. Voilà. Je vais vous dire une chose, toujours la solitude.
En écho au texte de Baudelaire, à ce personnage qu'il décrit qui est seul, qui exprime aussi la solitude du poète, vous avez répondu par une œuvre de peintre où justement il y a quelque chose de silencieux quand même.
Oui, effectivement, bon, c'est un peu facile de répondre cela, parce qu'en plus je ne suis pas un peintre de mouvement. Ma peinture est naturellement, j'allais dire, non pas calme, mais issu de la solitude. Vous voyez, même ceci qui représente pourtant un des passages au moment où le rideau de scène va se lever, on devine des formes qui sont celles que l'on devine dans les premiers rangs des personnages qui s'attendent au lever de rideau. Ça, c'était le pavillon chinois, je crois, si je ne m'abuse. Alors, vous voyez, il y avait des formes tout à fait nouvelles, en tout cas dans mon expression donc de l'époque. Maintenant, je reviens à plutôt une non-figuration, mais j'avoue que par moments, ce que je dis sans être ostentatoire, je trouve que c'était c'était libre, il y avait des choses qui, à mon avis, ont bien vieilli. Ça, c'est la figure de proue d'un bateau. C'est, vous voyez, ces formes en bois qui se trouvaient à l'avant des anciens bateaux. Il y a des figures de proue, une sorte de sirène qui vient, en fin de compte, qui existe, mais que l'on devine plus qu'on ne la dessine. Ça, c'est peut-être l'avant d'un drakkar. Ça, c'était le paysage. Ah oui, il y avait donc déjà des formes qui évoquent, des formes peut-être des arbres, de frondaisons, mais qui demeurent cependant quand même assez abstraites. C'est
il y a les
beaucoup
deux.
Plus une émotion qu'une vision, j'allais dire réaliste, ou en même non réaliste des choses. Alors ceci, c'était effectivement la femme à la collerette, avec le visage qui est mangé par le fond, puisque le fond a sensiblement la même valeur que la face latérale du visage. Alors là, voilà les tourterelles, c'est moi d'un amour tendre. Ceci, c'est la marée basse. On verrait très bien dans le fond le Mont Saint-Michel. C'est un petit peu toute cette évanescence. Alors là, voilà par exemple ce qui est pour moi la solitude, le retrait sur soi, sur une ambiance très presque palpable. Vous voyez ?
On distingue une pièce fermée.
Oui. En fait, c'est le monde que j'aime. Je le dis honnêtement, c'est un monde qui n'est pas inscrit avec une précision naturaliste, mais je suis beaucoup plus sensible à ce qui se passe. Je suis un homme qui, étant enfant, adorait les fantômes, tous ces mondes un petit peu mystérieux. Je passais des journées entières dans le grenier familial à vivre, et c'est comme ça que je me suis entouré et intéressé à des mondes qui n'étaient pas forcément, j'allais dire, de mon village, mais de pays étrangers, et qui m'ont incité par la suite à beaucoup voyager. Et aller à la rencontre de civilisations, de peuples, de choses. J'ai toujours eu besoin du mystère. C'est un petit peu comme une femme peut-être belle, mais je suis beaucoup plus sensible à son charme qu'à sa beauté. Le charme du mystère est quelque chose de terrible parfois, parce que on est continuellement dans un monde de séduction. Alors, l'un, c'était le paysage chinois. C'était amusant parce que, effectivement, j'évoquais un petit peu, non pas la peinture chinoise, s'en est éloigné, mais dans les passages et le caractère fantastique, vous voyez, de ces paysages, qui, lorsque je les voyais, étant beaucoup plus jeune avant que je ne connaisse l'Extrême-Orient, et particulièrement la Chine, me paraissaient des paysages totalement inventés. Et j'ai découvert qu'en Chine, ces paysages existent. À tout moment, je retrouvais ce que je voyais dans les peintures chinoises.
Ce que vous aviez rêvé.
Ça, c'est certainement une des découvertes les plus étonnantes.
Et là aussi, on est encore dans des formes qui sont évoquées. Oui. On reconnaît tout de suite, parce que même sans lire le texte, c'est à sa compense.
En même temps, c'est très abstrait.
Et en même temps, c'est très abstrait.
Et en même temps, c'est très suggestif.
Oui.
Alors là, vous avez reconnu, c'est un chat, qui est un animal assez fascinant, qui est toujours là à vous interroger, qui vous surveille.
Mystérieux, lui aussi.
Mystérieux, oui. Je parle tout le temps de cette sensorialité, cette sensualité de l'animal, du poil, de ses yeux. Nous arrivons.
Alors, ah, oui, celle-là, elle est très forte.
Oui, alors là, c'était un peu plus triste, oui. Le visage de la mort. Et nous terminons, je pense, avec...
Les anémones.
Les anémones.
Pleines de couleurs.
Sur les fleurs, voilà. Qui sont des fleurs simples et pleines d'émotions. Par leur couleur, par leur simplicité. Et puis souvent ce gros œil, le cœur de la fleur.
Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur quelques-unes de ces images qu'on vient de voir. Par exemple, sur la mort,
oui.
Baudelaire, on va dire, écrit la suite de ce que Thomas de Quincey n'a pas écrit. Il essaye de reconstituer un moment de la vie de ce personnage dont il parle, ce mangeur d'opium.
Oui.
Dans cette création de Baudelaire, il l'excuse par des douleurs de l'enfance, par la perte d'une sœur.
Oui.
Effectivement, c'est tout ce qui a trait à la mort, mais dans le texte de Baudelaire, il y a une espèce d'atmosphère écrasante. Il parle de la cérémonie, du rite funèbre qui lui paraît dérisoire.
Je le rejoins.
Tout ce social, tout ce rituel que l'enfant subit, qu'il voit, dont il est conscient et qui le ronge. Et en fait, cet enfant ne trouve de refuge que dans le rêve qu'on évoquait tout à l'heure.
Mais je vais vous faire un aveu. Vous savez que ma dernière communication lors de notre séance, est sur la mort dans la peinture. Je n'ai jamais vu la mort comme quelque chose, excusez-moi, de tragique, alors que j'y ai toujours pensé dès mon plus jeune âge. Mon père me disait, alors que j'étais enfant, ça m'avait beaucoup frappé, que pour lui, ce qui avait été le plus terrible dans sa vie, c'est quand il a appris et compris que l'on mourait. Je n'ai pas ce sentiment, personnellement. La mort n'est pas quelque chose qui me fasse peur. Je dirais que c'est même quelque chose que je côtoie assez familièrement. C'est une chose qui, pour moi, bon, ne représente pas le drame que cela peut représenter, je pense, pour certaines personnes. Comme cela représentait pour mon père. Alors vous allez me dire, c'est peut-être parce que je ne suis pas encore au chevet de la mort. On ne sait pas comment l'on sera, comment les choses se terminent, ce qui se passe après. Bon, mais la mort, pour moi, m'a toujours également accompagné dans le mystère de ma vie d'homme et d'artiste.
Je voudrais qu'on parle un petit peu de la technique qui a été utilisée. Ce sont des lithographies.
Ce sont des lithographies, ce sont des inkographies. C'est-à-dire qu'avant, la lithographie se réalisait sur la pierre. Alors, vous savez que c'est une estampe. Alors, contrairement, par exemple, aux pointes sèches, où l'on attaque la planche qui est généralement en cuivre, soit au burin, soit à l'acide, pour la lithographie, c'est une réaction des corps maigres avec les corps gras. Et ensuite, on enduit et c'est comme ça. Donc, il n'y a aucune épaisseur, si vous voulez.
Et pourtant, dans les couleurs qui ont été choisies, là, on a une impression d'épaisseur, on a une impression de matière quand on regarde votre lithographie.
Oui, parce que ceci est dans le métier que j'utilise, la façon dont j'ai dessiné et la façon dont j'avais besoin par moment de quelque chose de très dense.
C'est
un peu comme tout. Bon, c'est par le travail que l'on obtient, c'est-à-dire la puissance d'un ton.
Et là, justement, ça correspond bien à toute cette pénombre, cette solitude.
Parce qu'il fallait rester simple. C'est ça qui est le plus difficile en art, c'est de rester simple et d'exprimer le maximum avec le minimum de moyens. En fin de compte, c'est cela. Et la lithographie, par le fait que vous le savez, vous jouez beaucoup avec la superposition des couleurs. Par exemple, vous avez deux couleurs, un bleu, un rouge. Ce bleu sur le rouge va vous donner un violet. Et donc, ça vous donnera, avec deux planches, trois couleurs. C'est-à-dire que les superpositions, le bleu sur le rouge, vous donnera, si le bleu est plus fort que le rouge, ça vous donnera un violet froid. Si le rouge est supérieur au bleu, ça vous donnera un violet chaud, à base de rouge. Car en fin de compte, en peinture, il y a des couleurs froides et des couleurs chaudes.
Vous venez de tourner les pages du livre. Vous avez dit que vous étiez étonné avec le recul de la liberté que vous aviez.
Ça m'a fait d'ailleurs très plaisir. Je trouve que j'avais plus de liberté dans ce premier livre que dans les deux autres que j'ai traités. Dernier, j'étais beaucoup moins libre. J'entends par là, le dessin est plus inscrit, plus narratif. Là, il est beaucoup plus émotionnel.
Oui.
C'est émotionnel, c'est tactile. Il y a une part, on en revient toujours à cette sensorialité, parce qu'un artiste se doit de l'être, sinon tout est figé.
Un livre d'artiste, c'est une rencontre entre plusieurs personnes quand même, entre l'éditeur, entre l'artiste, l'écrivain,
absolument.
Ceux qui vont réaliser la maquette.
Il doit y avoir une osmose après qui s'établit
entre
les trois pôles principaux. Oui.
Est-ce que ça, c'est un moment dans le travail des artistes, justement, où ils rompent avec la solitude?
Absolument, parce que le travail d'un peintre, ça se passe toujours dans une solitude. D'ailleurs, on parle toujours de la solitude de l'artiste face à sa toile blanche, avec ce que cela entraîne, j'allais dire, de crainte. Et en même temps, également, lorsque l'on se bat avec sa peinture, c'est toujours dans la solitude. Ce sont des combats solitaires. Alors, le livre est en fin de compte tout à fait différent, car le combat, si vous voulez, est mené avec, en même temps, les références par le fait que vous avez l'éditeur, l'écrivain. Tout cela, en fin de compte, se cristallise autour de votre travail et vous donne, quand il le faut, une sorte de confiance. Je ne dis pas que lorsque l'on peint, on n'est pas confiant en ce que l'on fait, mais là, vous avez donc ce sentiment de faire un travail, d'être épaulé, en quelque sorte. Soit par le texte, qui vous permet de vous rattraper, ou en tout cas de découvrir des subtilités que vous n'auriez pas vous-même découvertes. Vous avez l'éditeur qui vous guide, même si vous ne suivez pas, c'est pas mal, en tout cas, de s'interroger sur ses propositions. Et puis, bon, vous avez votre propre travail. Non, c'est un travail tout à fait différent de celui donc de la création en peinture ou je pense peut-être même également en sculpture. C'est un travail presque d'équipe. C'est un travail d'équipe même. Alors que la solitude du peintre devant sa toile, bon, est une chose parfois lourde. Alors que là, on est un peu porté par les deux autres intervenants.
Nous venons d'entendre vos réactions sur un travail que vous avez réalisé il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, qui était votre premier ouvrage de bibliophilie, en fait, votre premier livre d'artiste sur Baudelaire, qui est un auteur qui correspond à votre peinture, ou votre peinture correspond à Baudelaire, on ne sait plus.
J'allais dire un grand mot qui correspond à ma sensibilité.
Voilà.
Je vais le dire.
Alors, monsieur Dautrive, merci beaucoup de nous avoir fait partager cette part de votre sensibilité, puisque là, on rentre un petit peu dans l'intime d'une création lointaine le temps.
Oui, oui.
Et de nous avoir fait partager vos réactions avec ce recul.
Merci d'abord. Et je pense que effectivement, au niveau de l'intimité, c'est dans l'ensemble des ouvrages que j'ai pu réaliser celui où émane le plus ce sentiment de mystère, de solitude, de séduction. Ça m'a fait extrêmement plaisir de le feuilleter avec vous, car en fin de compte, c'est toujours très douloureux parfois de voir une de ses œuvres presque 40 ans après.
Merci beaucoup de ce moment de partage.
Je vous en prie, merci madame.